pour toi. Aujourd'hui, on lit pour toi
Les As de l'info. L'immigration, un sujet chaud. Sarah nous explique. Un texte de Caroline Bouffard, paru le 12 novembre 2024 dans Les As de l'info. On parle beaucoup d'immigration dans l'actualité depuis les dernières semaines. C'est un sujet compliqué. Alors, j'ai demandé à la journaliste Sarah R. Champagne, qui a fait plein de reportages sur l'immigration au journal Le Devoir, de m'aider à comprendre. Sarah, pourquoi le Canada accueille des immigrants? Le Canada s'est construit avec l'immigration, c'est-à-dire que des gens venus d'un peu partout dans le monde ont choisi de venir vivre ici. Le Canada croit que c'est bien d'avoir de plus en plus d'habitants parce que c'est bon pour l'économie. Aujourd'hui, les Canadiens nés ici font peu d'enfants. Si la population du pays augmente, c'est parce qu'on accueille des immigrants. On entend parler d'immigrants temporaires et permanents. Peux-tu démêler tout ça pour nous? Il y a des gens qui arrivent avec leurs valises pour s'installer pour toujours. Ce sont les immigrants permanents. Mais il y a de plus en plus de gens qui arrivent avec un papier qui leur permet de rester ici pour un temps limité. Les étudiants étrangers, les travailleurs temporaires et les demandeurs d'asile. On les appelle les immigrants temporaires. On entend beaucoup parler d'eux parce que leur nombre a augmenté rapidement dans les dernières années. Pourquoi? Les entreprises canadiennes les embauchent car elles ont besoin de travailleurs. La population canadienne vieillit. Il faut remplacer les employés qui prennent leur retraite. Ils font quoi comme travail? On retrouve les travailleurs temporaires dans tous les domaines. Chauffeurs de camions, travailleurs d'usine, éducatrices en garderie et dans les services de garde, enseignants, infirmières, médecins spécialistes. Si le Canada a besoin d'eux, pourquoi on entend souvent qu'il y a trop d'immigrants temporaires? Cette immigration n'a pas été planifiée par le gouvernement. Ce sont les entreprises et les écoles qui sont allées recruter des gens à l'étranger. Beaucoup de monde est arrivé rapidement. Et les services comme la santé, l'éducation, le logement, qui sont déjà fragiles, se retrouvent avec beaucoup plus de personnes que prévues à servir. En octobre, le gouvernement de Justin Trudeau a annoncé qu'il allait réduire l'immigration à partir de 2025. Quel impact aura cette réduction? On dirait que le gouvernement du Canada essaie de revenir en arrière en réduisant le nombre de personnes qui pourront s'établir ici dans les prochaines années. Mais notre économie dépend maintenant de ces gens-là. Il faut aussi comprendre que de nombreux immigrants temporaires qui sont déjà au pays souhaitent rester et faire leur vie ici. Ce sera maintenant plus difficile pour eux. Des milliers de personnes vont devoir partir. Donald Trump vient d'être élu. Il a dit en campagne qu'il allait expulser des millions de migrants de son pays. Penses-tu que ça aura un impact au Canada? Plusieurs experts qui étudient l'immigration à travers le monde m'ont confirmé qu'ils prévoient des vagues d'immigration à notre frontière si Donald Trump applique tout son programme. Il pourrait s'agir de gens qui ont vécu pendant très longtemps aux États-Unis, mais qui n'ont pas de statut légal, ou encore d'autres personnes qui ont un permis qui va expirer dans les prochains mois. Par contre, le gouvernement du Canada a refermé sa frontière en 2023. Ce sera moins facile pour les gens qui veulent venir ici de demander l'asile. Et toi, connais-tu des gens qui ont quitté leur pays pour venir vivre au Canada? À quoi jouaient les enfants de la préhistoire? Un texte d'Esther Solio, paru le 12 novembre 2024 dans Les As de l'info. Il y a plus de 10 000 ans, des humains appelés Homo sapiens vivaient en Europe. Ils étaient nomades et pratiquaient la cueillette et la chasse. Sur le sol des grottes qu'ils occupaient, on retrouve des empreintes de pieds de différentes tailles, adultes, adolescents, enfants, et même de toutes petites, celles de bébés. Mais comment ces enfants occupaient leur journée? C'est la question que se pose Sophie A. de Beaune, une archéologue spécialiste de la préhistoire. À partir d'indices retrouvés dans des grottes, elle raconte à quoi pouvait ressembler la vie de ses enfants. Des activités manuelles. D'après ses recherches, les petits Homo sapiens faisaient des activités artistiques. Par exemple, ils fabriquaient des perles pour les bijoux. Elles étaient vraiment toutes petites, environ 6 mm. Impossible pour des hommes adultes de les manipuler, alors c'étaient les femmes et les enfants qui s'en chargeaient. Les chercheurs ont aussi retrouvé des empreintes digitales d'enfants sur de petites statuettes modelées dans du loess, une sorte de boue très très fine. C'est grâce à cet indice qu'ils pensent que ce sont des créations d'enfants. On sait que les jeunes participaient aussi à la décoration des grottes car on retrouve leurs empreintes de mains sur les murs. Jouets et collections. As-tu l'habitude de ramener des roches ou des coquillages de tes promenades? Les enfants des Homo sapiens aimaient le faire aussi. En tout cas, c'est l'hypothèse d'archéologues qui ont retrouvé des petits tas d'objets naturels un peu comme des petites collections. Par contre, on ne sait pas si les enfants avaient des jouets ou des poupées. Même si des objets ont été retrouvés, difficile de savoir si ces figurines étaient faites pour jouer ou avaient un autre usage. Car, même avec toutes ces recherches, impossible de savoir exactement comment vivaient les Homo sapiens à cette époque lointaine, mais comme il est rare que les archéologues s'intéressent à la vie des enfants à la préhistoire, ces découvertes méritent quand même d'être partagées. Imagine, dans 10 000 ans, lequel de tes jouets aimerais-tu que les enfants du futur découvrent? Pour ou contre les décorations de Noël en novembre? Un texte de Caroline Bouffard, paru le 11 novembre 2024 dans les As de l'Info. Chaque année, il se passe quelque chose d'étrange dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre. Noël arrive d'un coup dans les commerces. Pouf! Les décorations, la musique, les suggestions de cadeaux, tout est déjà en place pour la saison des fêtes. Et ce n'est pas que dans les magasins. On voit aussi des lumières et des Pères Noël gonflables devant certaines maisons. Pourtant, Noël, c'est le 25 décembre, c'est-à-dire dans exactement 44 jours. Est-ce que c'est trop tôt pour décorer? C'est un beau sujet de débat, non? Allons-y pour un pour ou contre les décorations de Noël en novembre. Les pour. C'est la période festive de l'année. Le temps des fêtes, pour beaucoup de gens, c'est LE moment fort de l'année pour célébrer et prendre une pause. Le temps s'arrête un peu. On a congé d'école. C'est l'occasion de voir les amis et la famille. C'est normal que Noël nous fasse rêver et qu'on ait envie de profiter le plus tôt possible de cette ambiance festive. De la couleur pour un mois gris. Le mois de novembre a la réputation d'être un mois déprimant. Les feuilles sont tombées, la végétation est flétrie, et en plus, avec le changement d'heure et les journées qui raccourcissent, c'est sombre. Vive les guirlandes, les glaçons et les sapins décorés qui ajoutent de la couleur et de la lumière. Ça évite de trop courir en décembre. Quand décembre arrive, tout va très vite. Il faut courir à droite et à gauche pour être prêt pour Noël. Vite! Il faut cuisiner des biscuits pour les profs, penser à un bricolage pour les grands-parents, faire une belle carte pour notre marraine. En commençant à se préparer et à décorer dès novembre, ça permet d'étendre les préparatifs. Les contres. C'est pour nous pousser à dépenser. Ce sont principalement les commerces qui se transforment en royaume du Père Noël dès le 1er novembre. Et c'est dans l'espoir qu'on dépense plus. Ça commence même plus tôt dans certains grands magasins. Et en ligne, on voit parfois des sapins dès la fin septembre. Il faut résister. Ça ternit la magie. Le 25 décembre, quand ça fait déjà 6 semaines que le sapin sèche dans le salon et que le petit Papa Noël joue en boucle partout où on va, on peut dire que la magie de Noël est un peu essoufflée. Ce n'est pas évident de garder l'excitation et l'anticipation au maximum pendant autant de temps. Les calendriers de l'Avent commencent le 1er décembre. Faisons pareil. Chaque chose en son temps. En juin, on nous parle de la rentrée de septembre. En décembre, c'est le temps de penser au camp de jour de l'été à venir. Et en janvier, on parle de la Saint-Valentin et le 15 février de Pâques. Stop! Il faut arrêter de se projeter dans le futur et se concentrer un peu plus sur ce qui se passe maintenant. Novembre, c'est l'automne. C'est le jour du souvenir. C'est un mois où on peut prendre des forces après l'Halloween et avant le sprint des fêtes. Profitons-en. Les décorations peuvent attendre. Et toi, es-tu pour ou contre les décorations de Noël en novembre? 18 ans en prison à cause d'une erreur. Un texte de Camille Lopez, paru le 13 novembre 2024 dans les As de l'Info. Il arrive, rarement, que des innocents soient envoyés en prison par erreur. C'est une grande injustice. Et Claude Paquin, un Québécois de 81 ans qui a été accusé d'avoir tué ses deux amis en 1978, l'a vécu. Son cauchemar s'est enfin terminé mercredi, quand une juge a annulé sa condamnation. Il est maintenant un homme libre, 41 ans plus tard. L'histoire compliquée de Claude Paquin. Une fois sa condamnation pour meurtre annulée, Claude Paquin a dit aux journalistes être enfin sorti de l'enfer. Voici ce qu'il a vécu. En 1983, Claude Paquin est jugé coupable d'avoir tué deux de ses amis, Ronald Bourgoin et Sylvie Reva. Cette décision est surtout basée sur le témoignage d'une seule personne qui a dénoncé M. Paquin. Lui assure être innocent. Malgré cela, il est envoyé en prison. Il y passera 18 ans en tout. En 2001, il est placé en liberté conditionnelle, c'est-à-dire qu'il n'est donc plus en prison, mais il doit suivre des règles très strictes. Il n'est donc pas un homme totalement libre. Pendant tout ce temps, il répète qu'il est innocent et qu'il y a eu des erreurs lors de son procès. Jamais, jamais, jamais j'ai participé à ça, a-t-il déclaré aux journalistes la semaine passée en sortant du tribunal. Un combat avec Projet Innocence Québec. Même une fois sorti de prison, M. Paquin n'accepte pas ce qui lui est arrivé, mais il trouve un moyen de garder espoir, lutter contre sa sentence. J'ai senti que la haine et la frustration me maganaient. J'ai décidé de me battre, a-t-il déclaré dimanche dernier à l'émission Tout le monde en parle. En 2010, il demande à Projet Innocence Québec de l'aider. C'est un organisme regroupant des avocats qui aident gratuitement les gens victimes d'erreurs judiciaires. Le groupe passe des années à étudier son cas. Sa mission? prouver que la personne qui a dénoncé Claude Paquin a menti et a reçu des avantages de la part des policiers en échange de son témoignage. Et succès. Mercredi dernier, la juge Lynn Descaries a annoncé sa décision. Claude Paquin est acquitté des deux meurtres puisqu'il n'y a rien qui prouve qu'il aurait commis ces crimes. Ça veut dire qu'elle a annulé sa condamnation 41 ans plus tard. J'ai demandé à la juge de répéter deux fois pour être sûr que c'était bien ça, a dit Claude Paquin à Tout le monde en parle. Je ne remercierai jamais assez les avocats qui ont travaillé pour moi. Est-ce qu'il est encore fâché d'avoir vécu cette histoire? Non. Même s'il a été révolté les 10 premières années de sa sentence. Pourquoi a-t-il laissé tomber la colère? Parce que la haine le grugeait. Maintenant qu'il est totalement libre, qu'est-ce que l'homme de 81 ans compte faire? Je veux vivre ma liberté et vivre une vie plus normale, a-t-il déclaré dimanche. Et toi, est-ce qu'on t'a déjà accusé à tort de quelque chose? Comment t'es-tu senti? Des inondations dans le désert? Comment ça? Un texte de Sophie Payeur, paru le 7 novembre 2024 dans Les As de l'Info. Non, ce n'est pas un mirage. De vastes étendues d'eau sont soudainement apparues dans le Sahara. Il y a quelques semaines, des pluies fortes et abondantes sont tombées sur le Maroc et ont métamorphosé le désert. Comment est-ce possible? Est-ce un effet des changements climatiques? Au début septembre, de violentes averses se sont abattues en très peu de temps sur le sud du pays. Cela a entraîné de graves inondations et fait malheureusement plusieurs morts. Or, cet événement extrême a aussi fait des heureux en plus de soulever une importante question. Une nature qui prend des couleurs. Pour les Marocains, c'est un don du ciel. Depuis 6 ans, ils connaissent une dure sécheresse. Maintenant, les sources et les puits sont remplis. La population a enfin accès à l'eau, de même que les agriculteurs et leurs bêtes. Quel soulagement! Les satellites de la NASA ont capté d'impressionnantes images de bassins et de lacs aussi remplis de bleu. Certains étaient complètement desséchés depuis des dizaines d'années. Le phénomène en cause. Selon les experts de la Direction générale de la météorologie du Maroc, la cause est le déplacement de ce qu'ils appellent la zone de convergence intertropicale. Tout un nom, hein? C'est une zone de l'atmosphère située autour de l'équateur où se rencontrent les vents permanents du nord et du sud. L'air qui monte alors se refroidit et se transforme en pluie. Mais en septembre, il s'est passé quelque chose d'inhabituel. Cette zone s'est déplacée vers le nord, juste au-dessus du Maroc. C'est ce phénomène qui a produit des quantités d'eau exceptionnelles. Les changements climatiques en cause ou pas? Même s'il est fort probable que le réchauffement soit en cause, il est trop tôt, disent les experts, pour trancher. Il est impératif de donner le temps nécessaire à la recherche, a expliqué une scientifique marocaine spécialisée dans le climat. Quelle différence entre la météo et le climat? C'est la période de temps. Quand on parle de météo, on se réfère au temps qu'il va faire dans quelques heures, jusqu'à un maximum de 10 jours. La météorologie est la science qui étudie la météo. Le climat, quant à lui, concerne une période bien plus longue, au moins 30 ans. La science du climat s'appelle climatologie et se base sur l'étude rigoureuse de statistiques à travers le temps. Et au Québec, on en fait de la recherche sur le climat? Bien sûr. des centaines de chercheurs de plusieurs disciplines, informatique, biologie, climatologie, etc., travaillent à comprendre et prévoir ces changements, comme les inondations qui ont frappé la province cet été. Et toi, y a-t-il un aspect des changements climatiques que tu aimerais qu'on aborde ici? Aller à la guerre sans savoir à quoi s'attendre. Un texte de Clémence Tessier, La Liberté, paru le 11 novembre 2024 dans Les As de l'Info. Née dans une famille de fermiers en Ontario, Safford Balquill a décidé de s'engager dans l'armée, car la vie à la ferme n'était pas facile. Mais il ne s'attendait pas du tout à vivre ce qu'il a traversé en tant que soldat de la Première Guerre mondiale. Sa fille et sa petite-fille nous ont raconté son histoire. Tu veux la connaître? Mon père plaisantait souvent, disant qu'il s'était engagé dans l'armée pour avoir une paire de chaussures, puisque l'armée offrait nourriture, logement et vêtements, raconte sa fille, Deirdre Balquill, au journal franco-manitobain La Liberté. Des moments difficiles. Mais la réalité de la guerre était bien différente. Lorsqu'il s'est engagé dans l'armée, Safford Balquill venait tout juste de sortir de l'adolescence. À l'époque, les jeunes hommes qui s'enrôlaient croyaient partir pour une courte durée de temps et ne savaient pas vraiment à quoi s'attendre. Mais la guerre s'est prolongée. Et les soldats ont dû affronter de dures conditions comme marcher sur de très longues distances dans la boue et le froid et effectuer des missions dangereuses. Ils pensaient qu'ils partaient pour une petite guerre et quand ils sont arrivés, ils ont découvert que ce n'était pas du tout ça. C'était difficile d'en parler à son retour, explique Deirdre. Malgré tout, son père Stafford trouvait quand même le moyen de raconter des histoires amusantes à ses proches pour les faire sourire. Par exemple, celle d'un âne à trois pattes qu'il avait rencontré dans une ferme pendant une mission. Continuer à avancer. Après la guerre, Stafford a pu étudier la chimie à l'Université Queen's grâce à une bourse pour les vétérans. Vétérans, c'est le nom qu'on donne à ceux qui ont participé à une guerre. Il est le premier de la famille à avoir obtenu un diplôme universitaire, raconte sa petite-fille Kate à La Liberté. Même si la guerre avait marqué sa vie, Stafford Balquill a su rebondir et a trouvé du travail comme chercheur scientifique. À travers les souvenirs de Deirdre et Kate, on découvre un homme marqué par la guerre, mais qui a su trouver des raisons de sourire et des moyens d'avancer. Son histoire est un bel hommage à tous les anciens combattants. Toi, que connais-tu de la vie de tes grands-parents? Il est une fois les jumeaux qui parlent une langue secrète. Un texte de Frédéric Lavoie, paru le 8 novembre 2024 dans Les As de l'Info. Il est une fois, à notre époque, une langue parlée par seulement deux personnes dans le monde. Tout a commencé quand Matthew et Michael, des jumeaux identiques, étaient tout petits. Pour se comprendre entre eux, ils ont commencé à inventer des gestes et des sons. Plusieurs bébés jumeaux et bébés jumelles à travers le monde font la même chose, mais en grandissant, la plupart oublient leur langue inventée. Mais pas Matthew et Michael. Bien sûr, ils ont peu à peu appris la langue de leurs parents, l'anglais. C'est dans cette langue qu'ils se sont mis à parler aux autres personnes, mais entre eux, ils ont continué à inventer de nouveaux mots, avec lesquels ils pouvaient faire des phrases complètes comme dans une vraie langue. Quand ils avaient 5 ans, ils ont même décidé de lui donner un nom officiel, Loumiri. Pour Matthew et Michael, Loumiri n'était même pas un code secret pour cacher des choses à leurs parents, c'était simplement la façon normale de parler à son jumeau. d'avoir leur propre langue les a poussés à s'intéresser à celle des autres. Quand ils avaient 8 ans, leurs parents les ont emmenés en voyage en Espagne. Comme ils avaient peur de ne pas être capables de commander un cornet de crème glacée et de se faire des amis, ils ont décidé d'apprendre l'espagnol. Une autre année, la famille est allée en Italie et Matthew et Michael ont appris l'italien. Avec chaque nouveau voyage, venait une nouvelle langue à apprendre. Et plus ils apprenaient de langues, plus ils étaient inspirés pour enrichir le vocabulaire et la structure de leur langue juste à eux, l'oumeri. Aujourd'hui, Matthew et Michael ont 41 ans et parlent 25 langues, sans compter l'oumeri. Ils sont traducteurs et aident d'autres gens à apprendre des langues, mais pas l'oumeri. Car pour eux, cette langue n'est pas seulement un moyen de communication. Elle est le symbole du lien profond qui les unit en tant que jumeaux identiques. Elle leur appartient. Ainsi, quand vous demandez à Matthew et Michael de vous dire quelque chose en oumeri, ils hésitent. Bon, ils peuvent bien nous révéler que s'ils laissent tomber un « djuja », cela est l'équivalent de « ayoy » au Québec, ou que « wema » veut dire à peu près « hop là ». Mais comment dit-on « iPad » en oumeri? Ou « sirop d'érable » ou « cornet de crème glacée » Matthew et Michael ont inventé des mots pour toutes ces choses, mais refusent de les divulguer. Secret de jumeaux. Car oui, c'est quand même génial d'avoir une langue ultra-secrète avec une autre personne. Et toi, partages-tu une langue secrète ou un code secret avec quelqu'un? Cette histoire est bien vraie. Matthew et Michael Yulden sont originaires de Manchester en Angleterre. Même s'ils habitent aujourd'hui à des milliers de kilomètres l'un de l'autre, ils continuent de se parler en oumeri et d'apprendre encore et encore de nouvelles langues.
C'était Gilbert, djuja l'oumeri.
C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve dans 2 semaines. Merci à toute l'équipe.